commencer par désigner le secrétaire de séance et je propose la désignation de Monsieur Christophe Lacroix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous fais état des procurations que j'ai reçues. Laurence Turquini a donné procuration à Liliane Diaz. Hervé Royac m'a donné procuration. Patricia Roche a donné procuration à René Sauvera. Pascal Gilles a donné procuration à Sylvette Gilles. Je vous fais part aussi d'un certain nombre de remerciements qui nous ont été adressés. Suite au décès de l'ancien maire de Travaco, M. Ermanno Bonazzi, qui avait signé le premier pacte de jumelage avec la ville de Camaret, donc décès qui est intervenu début octobre, nous avons un message de son épouse et de sa fille Lucia, Francesca, qui nous remercie donc de tout cœur pour notre proximité à leur douleur lors de la perte de M. Ermanno. Nous avons aussi un administré, M. Marcel Chastain, qui nous fait un devoir de nous remercier d'avoir bien voulu mettre à la disposition du curé un certain nombre de matériel des espaces verts pour s'occuper du parc du presbytère, pour le remettre au propre. Donc, M. Marcel Chastain. Et nous avons aussi la famille Sicarelli qui nous remercie pour notre aide lors de pour la transformation de leur nouveau domicile qui est au lotissement des Cantarelles, aide qui a été utilisée pour mettre aux normes, enfin aménager un logement pour tenir compte d'une situation de handicap. Et enfin, la famille Imperel, donc, il nous remercie pour les marques d'attention que nous lui avons communiquées lors du décès d'Émile Imperaire. Voilà pour les remerciements. Vous avez reçu le procès-verbal du dernier conseil municipal. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Donc, je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Nous en venons à l'ordre du jour. Avec une remarque préalable, nous avons un nouveau dossier complémentaire qui s'agit du règlement du concours de décoration de Noël. Donc il y a eu une initiative bienvenue, une idée qui a été de lancer un concours pour décorer les maisons et les jardins au moment de Noël. Je pense que c'est on a bien besoin dans la période que nous traversons. Et donc je vous demande l'autorisation de bien vouloir autoriser l'adoption de ce dossier complémentaire aujourd'hui. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous en remercie. Deuxième remarque qui concerne le premier dossier, c'est l'approbation du règlement intérieur. Donc nous avons élaboré un règlement intérieur comme il se doit à chaque renouvellement du mandat municipal. Nous avons envoyé notre projet au groupe d'opposition qui nous a fait part d'une remarque dont nous avons tenu compte. Donc c'est la raison pour laquelle vous avez, je pense, sur vos tables une page qui rectifie, mais on va y venir tout de suite. Et enfin, la troisième remarque, c'est pour justement le dossier qui suit, l'admission en valeur de créances irrécouvrables. Et là, il y a une modification pour les créances d'1,30€ que nous avons supprimées, bien entendu, qui a été réglée, sans trop de difficultés. Alors, je passe au dossier numéro 1, approbation du règlement intérieur du conseil municipal. Vu l'article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales, vu l'article L2121-8 du Code général des collectivités territoriales qui rend obligatoire pour les communes de 1000 habitants et plus l'adoption d'un règlement intérieur, Considérant que dans une commune de 3500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les 6 mois qui suivent son installation, il est demandé au conseil municipal d'approuver le règlement intérieur du conseil municipal tel que présenté. Donc il s'agit d'un règlement intérieur, d'un projet de règlement intérieur qui est à peu près identique à celui du précédent mandat. Et donc le groupe d'opposition, Ensemble pour Camaret, a demandé de pouvoir transmettre leur tribune de l'opposition, sa tribune de l'opposition, au plus tard 15 jours avant l'impression du périodique, alors que nous avions indiqué 1 mois, et nous avons fait droit à cette demande. Donc voilà. Est-ce qu'il y a quand même des remarques? Eh bien, s'il n'y a pas de remarques, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Rapport numéro 2. Admission en valeur des créances irrécouvrables. Rapporteur Liliane Diaz.
Bien, le micro. Alors, le décret 98-1239 du 29 décembre 1998 indique que les décisions prononçant une admission en non-valeur des créances irrécouvrables sont prises sur avis conforme de l'Assemblée délibérante de la collectivité territoriale, j'y arrive pas, par le Centre des finances publiques. La trésorerie d'Orange sollicite l'admission en non-valeur des dettes suivantes. Si vous le permettez, si vous me faites crédit des références, si je ne suis pas obligé de les nommer, c'est bien. Nom du redevable Guyane Jennifer, montant restant recouvré 150,38 €. Motif de la présentation, combinaison infructueuse d'actes. Lurie Stéphane, 90 €, combinaison infructueuse d'actes. Longer Patricia, 90 €, combinaison infructueuse d'actes. Moreau Philippe, 32,28 €, combinaison infructueuse d'actes. Roche Mallory, 47,88 €, combinaison infructueuse d'actes. Canada Daniel, 5,70 €, recommandé accusé réception inférieur au seuil de poursuite. Noël Christelle pour 181,60 €, 354,26 €, 70,19 €, 368,05 € et 10 € pour combinaison infructueuse d'actes. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le décret numéro 62-1587 du 29 décembre 62 portant règlement général sur la comptabilité publique, vu le décret numéro 98-1239 du 29 décembre 98 indiquant notamment que les décisions prononçant une admission en non-valeur des créances irrécouvrables sont prises sur avis conforme de l'Assemblée délibérante de la collectivité territoriale par le Centre des finances publiques. Vu la demande d'admission en non-valeur émise par la trésorerie d'Orange pour un montant de 1 400,34 €, entendu, monsieur le maire, il est demandé au conseil municipal d'émettre un avis à l'admission en non-valeur des créances irrécouvrables relatives au titre de recette mentionné ci-dessus pour un montant global de 1 400,34 €, et les crédits nécessaires sont inscrits à article 65-41 du budget principal 2020.
Y a-t-il des questions? Oui, M. Moncorsini.
Plusieurs questions, mais je vais essayer d'aller assez vite.
Oui.
La première question, c'est technique.
Attendez, oui, si vous avez un micro, c'est quand même, sinon vous...
Oui, la première question, elle est technique. L'abandon des 1,38 € change en quoi par rapport au fait qu'il y a un abandon de créances générale?
En fait, les 1,38 € ont été réglés.
Ah, ils ont été réglés, parfait. Je croyais que vous l'aviez abandonné, je comprends.
Non. Bon, c'est un petit peu absurde quand même.
Tout à fait.
Quand il fait des créances irrécouvrables, la somme de 1,38 €.
Oui, mais ça passait dans les abandons de dette, ouais, donc c'est pas grave. La deuxième question, c'était savoir si l'ensemble de ces dettes donc non recouvrées touchaient quel type de dépenses. La cantine, je suppose, est-ce que ça touche ce genre de choses?
Alors, j'ai repéré un certain nombre de locataires. Oui, il y a des loyers.
Anciens
locataires qui ont changé de commune, voire même de département, voire même de région. Il y a effectivement des redevances enfants jeunesse, donc cantine ou ALSH, accueil de loisirs. Il y a aussi, je crois, jardin, au moins une personne qui avait loué une parcelle au jardin familial.
Voilà. D'accord. Alors, bon, ça c'est bien.
Il y en a qui cumulent les deux, en fait.
Oui, c'est sûr. je pensais notamment à la dernière personne. Ce qui m'étonnait un peu dans cette personne-là, c'est qu'elle, bon, ça date de 2017-2018. Je me souviens de cette personne, dans quelle situation elle était.
Ben voilà, je crois que c'est bien les deux, justement. Voilà. C'est à la fois la cantine et le loyer.
Et elle ne peut pas faire l'objet de prise en charge de la part de services sociaux, ou tout comme ça. Je vois qu'elle se retrouve là, ça me paraît bizarre. Ça fait quand même pratiquement les trois quarts de la dette, hein. Cette dame représente les trois quarts.
Services sociaux, ils interviennent en fonction de certains critères. Après.
Elle n'est pas éligible, c'est possible.
Oui, tout à fait. Je pense qu'elle n'était pas éligible à l'aide sociale, au vu de ce qu'on savait d'elle, des pièces qu'elle avait fournies. Par contre, ben, au dernier moment, tac, elle en a profité pour.
Partir à la cloche de bois.
Pour partir, voilà.
D'accord, ok.
La cloche de bois, effectivement, c'est une belle expression.
Parfait, merci.
Voilà. Donc, ceci dit, je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Dossier numéro 3, subvention exceptionnelle à l'association aide aux sinistrés. Vu le budget primitif du budget principal voté lors du conseil municipal du 17 juin 2020, considérant le soutien de la commune de Camaret-sur-Aille aux actions menées par l'association Aide aux Sinistrés, dont le siège social se situe sur la commune, ayant pour vocation d'apporter une assistance et aide humanitaire, de réaliser des actions de solidarité et de bienfaisance auprès de populations sinistrées du fait de catastrophes naturelles, de menaces écologiques ou de toute autre situation d'urgence, dans le but de répondre à leurs besoins vitaux, considérant l'intervention de l'association Aide aux Sinistrés dans le cadre des inondations dévastatrices qui ont ravagé une partie du département des Alpes-Maritimes dans la nuit du jeudi 1er octobre 2020 et qui ont causé de considérables dégâts humains et matériels, il est demandé au conseil municipal de procéder au versement d'une subvention exceptionnelle de 2000 euros à l'association Aide aux Sinistrés dans le cadre des intempéries survenues dans les Alpes-Maritimes et ayant causé d'importants dégâts humains et matériels, d'autoriser M. le maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. Voilà, donc nous intervenons à l'instar d'autres collectivités, dont d'ailleurs la communauté de communes Aigues-Ouvèze en Provence, déjà, premier point. Et deuxième point, et peut-être surtout le plus important, c'est qu'il y a un certain nombre de nos concitoyens qui sont très engagés dans cette action humanitaire, qui nous ont demandé du soutien logistique que nous leur avons fourni, du soutien aussi en matière de communication que nous leur avons fourni, du prêt de personnel que nous avons fourni. Donc voilà, on accompagne cette association qui est une association en cours de constitution, mais qui a déjà des statuts, lesquels ont été envoyés en préfecture. Donc voilà, c'est une association qui est régulièrement constituée et c'est une association camaretoise. Monsieur Boncorsini.
Juste pour.
N'oubliez pas le micro, sinon vous serez mal enregistré.
Allô?
Oui.
Oui. Allô? Oui. 1, 2, 3. Non, je sais pas, j'ai l'impression que ça marche pas. Si, ça marche?
Si, ça marche.
Non, tout simplement pour mettre en avant la personne qui s'en occupe, parce que je me suis un petit peu renseigné, et puis c'est effectivement ce monsieur Wilfried Bricot, qui est à l'origine d'un garçon qui me paraît très, très engagé, et je voulais qu'ici on lui rende hommage. Et en même temps, pour rappeler, parce que je ne savais pas en définitive, et donc je vais m'y atteler aussi, que l'appel au don sur Opatl Tempête Alex est toujours ouvert. Hein. Donc, oui. j'avais pas versé, mais je vais verser.
Voilà. Tout à fait. Absolument. Et l'hommage à Wilfried Bricot est tout à fait mérité. En effet. Monsieur Normani.
Oui, juste une petite question complémentaire. Cette aide exceptionnelle est une aide financière ou bien une aide technique ou matérielle?
C'est une aide, là, le vote de la délibération, c'est une aide financière, mais j'ai rajouté dans ma présentation le fait qu'effectivement, on a apporté aussi une aide technique. La mairie a apporté aussi une aide technique.
Que vous n'avez pas chiffré?
Non, on n'a pas chiffré. Okay. Ça a consisté en du prêt de matériel, et notamment d'un camion Ben, ainsi que divers autres matériels, oui.
Et je crois qu'aussi, il y a pas mal de personnes qu'il faudra aussi saluer. Je pense notamment à Intermarché qui offre le carburant. Je crois que c'est important.
Jacques Marchand, Jean-Louis Latour,
des sommes importantes.
Absolument. On est d'accord. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Dossier numéro 4. Approbation de la convention relative au groupement de commandes pour la fourniture de produits d'entretien, rapporteur Liliane Diaz.
Le marché actuel pour la fourniture de produits d'entretien de la commune prend fin au 31 décembre 2020. Il convient donc de relancer une procédure afin de désigner un nouvel attributaire pour le 1er janvier 2021. L'article 28 de l'ordonnance numéro 2015-899 du 23 juillet 2015 dispose que des groupements de commandes peuvent être consultés entre des acheteurs afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés publics. Le groupement de commandes permet à une pluralité de personnes publiques relevant de la réglementation des marchés publics et justifiant de besoins communs liés à un achat déterminé ou à une opération ponctuelle dans le domaine des fournitures, des services ou des travaux, de se regrouper en vue de rationaliser les coûts de gestion et d'améliorer l'efficacité économique des achats. Les communes de Sérignan-du-Comtat, Huchot, Piolain, Travaillant et Camaret-sur-Aigle ont décidé de constituer un groupement de commandes pour le lancement et l'attribution d'un marché à procédure adaptée, MAPA, à bon de commande dit accord cadre, article 80 du décret 2016-360 du 25 mars 2016, pour la fourniture de produits d'entretien pour les services et bâtiments municipaux. La commune de Piolain est désignée comme coordonnateur et sera donc chargée de procéder, dans le respect de la réglementation des marchés publics, à l'organisation de l'ensemble des opérations permettant de désigner un fournisseur, à la signature du marché public au nom des membres du groupement et à sa notification à l'attributaire. Conformément à l'article 28 de l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015, une convention constitutive du groupement, et qui définit notamment les modalités de fonctionnement de ces derniers, est soumise aux communes qui souhaitent adhérer à ce groupement. Chaque membre du groupement s'engage à exécuter avec le co-contractant retenu un marché à hauteur de ses besoins propres. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la convention constitutive du groupement de commandes pour la fourniture de produits d'entretien pour les services et bâtiments municipaux, d'autoriser M. le maire à signer la convention constitutive du groupement à intervenir et tous les documents afférents à ce dossier, et d'autoriser le lancement de la procédure adaptée par les services de la commune de Piolain, coordonnateur du groupement de commandes.
Est-ce que vous avez des questions? Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Dossier numéro 5. Caisse d'allocation familiale de Vaucluse et mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse. Approbation de l'avenant à la convention d'objectifs et de financement du contrat enfant-jeunesse. Rapporteur Sylvette Gilles.
La commune de Camaret-sur-Aigle a signé avec la caisse d'allocation familiale de Vaucluse et la mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse un contrat enfance-jeunesse dont l'échéance est arrivée à son terme le 31 décembre 2019. Dans un contexte de crise sanitaire et dans l'objectif de garantir un maintien des financements aux équipements et services, la branche famille de la caisse d'allocation familiale de Vaucluse adapte sa trajectoire de déploiement des conventions territoriales globales et de mise en œuvre de la réforme des financements bonifiés telle que prévue par la convention d'objectifs et de gestion signée avec l'État. Il est convenu que la convention d'objectifs et de financement prestations de services contrat enfance jeunesse entre la CAF, la MSA et la commune de Camaret soit prolongée en modifiant par avenant la durée jusqu'au 31 décembre 2020. Il est demandé au conseil municipal d'approuver l'avenant à la convention d'objectifs et de cofinancement enfance-jeunesse avec la CAF de Vaucluse et la MSA Alpes-Vaucluse, permettant la poursuite des actions existantes et le développement pour l'enfance et la jeunesse pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Il autorise M. le maire à signer cet avenant au contrat enfance-jeunesse dans la continuité du précédent contrat et tous les documents y afférents et à intervenir dans ce cadre.
Merci. Des questions? Donc là, c'est une convention qui est reconduite très régulièrement. rien de neuf. Alors, je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Voici le numéro 6, Bibliothèque municipale, approbation de la convention pour le prêt de documents entre les bibliothèques de Camaret, Sérignan, Huchot et Violès, rapporteur Francine Deneau.
Le prêt entre bibliothèques, PEB, est un service qui permet à des bibliothèques d'échanger des documents. Cela permet aux usagers d'avoir accès à un fonds documentaire diversifié en leur fournissant des documents qui ne sont pas présents dans leur bibliothèque de rattachement. Les bibliothèques de Camaret-sur-Aigle, Sérignan-du-Comtat, Huchot et Violès, faisant partie de la CCAOP, sont engagées en 2020 dans une démarche de regroupement intercommunal de bibliothèques. Dans un souci d'équité, les conditions de prêt des bibliothèques ont été harmonisées. Elles pratiquent les mêmes tarifs d'adhésion et des modalités de prêt communes. Enfin, l'accès aux documents par les usagers est facilité grâce à un catalogue documentaire commun. Afin de définir les modalités de ce service, une convention a été rédigée prévoyant les démarches à effectuer par des adhérents et par les bibliothécaires. Le personnel de la bibliothèque est chargé de l'application de cette convention. Vu le Code général des collectivités territoriales, il est demandé au conseil municipal d'approuver la convention relative au fonctionnement du prêt entre les bibliothèques de Camaret, Sérignan-du-Comtat, Huchot et Violès, d'autoriser M. le maire à signer tout document relatif à ce dossier.
Merci. Y a-t-il des questions ? Alors, s'il n'y a pas de questions, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Dossier numéro 7, Bibliothèque municipale, modification du règlement intérieur, rapporteur toujours Francine Deneux.
Alors, le règlement intérieur de la bibliothèque présente des dispositions générales, les modalités d'inscription des adhérents, les conditions de prêt, les recommandations et les interdictions. Rédigé et approuvé lors de la municipalisation de la bibliothèque en 2010, le règlement intérieur a été modifié en 2013 du fait de la constitution d'un fonds musique, puis en 2015 suite à la mise en place du prêt de liseuses électroniques aux usagers. En 2020, la bibliothèque de Camaret-sur-Aigle est engagée dans une démarche de regroupement intercommunal avec les bibliothèques de Sérignan-du-Comtat, Huchot et Violès, et dans le cadre de ce regroupement, un catalogue documentaire commun a été conçu. Les modalités de prêt ont été harmonisées et un service de prêt entre bibliothèques, PEB, a été mis en place. Il convient donc de modifier le paragraphe 3 portant sur les conditions de prêt des documents, articles 8 et 9. En effet, les adhérents des 4 bibliothèques pourront emprunter dans les 4 structures aux mêmes conditions, le nombre de documents autorisés au prêt passant de 6 à 10. Le personnel de la bibliothèque est chargé de l'application du règlement intérieur, vu le Code général des collectivités territoriales. Il est demandé au conseil municipal d'approuver le règlement intérieur de la bibliothèque qui remplace et annule le précédent.
Merci. Des remarques, des questions ? Alors, je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Rapport numéro 8, communauté de communes Aigle-Ouvèze-en-Provence, service commun d'instruction des autorisations du droit des sols, rapporteur Christine Winkelmann.
Par délibération.
Non, ça marche.
Si ça marche, non. Oui, si, bon. Par délibération 2015-001 du 29 janvier 2015, le Conseil communautaire avait approuvé la création du service commun d'instruction des autorisations du droit des sols, puis par délibération 2015-002 du même jour, les conventions à passer avec les communes qui souhaitaient y adhérer. Par délibération 2015-115 du 24 septembre 2020, le Conseil communautaire a approuvé les nouvelles conventions qui seront signées par le service instructeur et les communes adhérentes au service avec prise d'effet au 1er janvier 2021. Par délibération 2015 et 036 du 30 mars 2015, le conseil municipal a autorisé M. le maire à signer la convention liant la commune de Camaret-sur-Aigle, autorité compétente, et la communauté des communes Aigouvaise en Provence pour l'instruction des autorisations du droit des sols ainsi que leur suivi, contrôle et contentieux liés. Cette convention a été prorogée pour une durée de 4 ans par délibération 2016 délib 092 du 20 octobre 2016, cette dernière prenant fin au 31 décembre 2020. Cette convention précise les modalités de travail entre le maire, autorité compétente pour délivrer les actes, et le service instructeur placé sous la responsabilité du président de la CCAOP. Les champs d'application, catégories de demandes, instruites, contrôle de conformité, contentieux, veille juridique, services et administration à consulter. Les définitions opérationnelles des missions qui échoient au maire. Les missions propres au service instructeur, les modalités de transfert des pièces et des dossiers, la répartition des autres tâches, archivage, information à communiquer au service de l'État, les modalités de recours de la gestion du contentieux, les constatations des infractions pénales et la police de l'urbanisme, les dispositions financières, la gestion des ressources humaines, la date de mise en œuvre, les conditions de suivi et de réalisation. La nouvelle convention est prévue pour une durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2021. Elle pourra être modifiée par voie d'avenant et dénoncée par l'une ou l'autre des parties, sur décision motivée et moyennant un préavis de 6 mois adressé par lettre recommandée avec AR au président de la CCAOP. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L5211-4-2 relatif aux services communs non liés à une compétence transférée, vu le Code de l'urbanisme, notamment les articles L422-1, L422-8 et R423-48, vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983, modifié portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984, modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment les services 61, les articles, pardon, excusez-moi, 61 à 63. Vu le décret 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention entre la commune de Camaret-sur-Aigle et le service instructeur commun de la communauté des communes Aigouvaise en Provence, d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention et tout document afférent à ce dossier. Y a-t-il des questions ?
Alors, s'il n'y a pas de questions, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Dossier numéro 9, communauté de communes Aigouvaise en Provence, renouvellement de la convention de mise à disposition d'un agent, service urbanisme, rapporteur Christine Winkelmann.
Par délibération 103 du 25 septembre 2014, le Conseil communautaire de la communauté des communes Aigouvaise en Provence a approuvé la modification de ses statuts pour inclure la création d'un service commun d'instruction des autorisations du droit des sols et par délibération 2015-01 du 29 janvier 2015, le Conseil communautaire a approuvé la création du service commun d'instruction des autorisations du droit des sols. Par conséquent, la commune de Camaret-sur-Aigle a décidé par délibération en date du 30 mars 2015, puis du 18 novembre 2020, d'établir une convention pour définir les modalités de travail en commun entre la mairie, autorité compétente pour délivrer les actes, ainsi que son service préinstructeur qui ne relève pas du service commun et le service instructeur de la communauté des communes Ouvèze en Provence, placé sous la responsabilité de son président dans le domaine des autorisations et des actes relatifs à l'occupation des sols. Délivré au nom de la commune, la convention s'applique à toutes les demandes et les déclarations déposées durant sa période de validité. Elle porte sur l'ensemble des actes de la procédure d'instruction des autorisations, depuis l'examen de la recevabilité de la demande jusqu'au contrôle de conformité. Par ailleurs, la commune de Camaret-sur-Aigle a également établi plusieurs conventions de mise à dispo du personnel pour exercer les fonctions d'instructeur des autorisations du droit des sols à compter du 1er avril 2015. La dernière convention arrive à terme le 31 décembre 2020. Il convient de procéder à son renouvellement à compter du 1er janvier 2021, et ce pour une durée de 3 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2023. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L5211-4-2 relatif aux services communs non liés à une compétence transférée, vu le Code de l'urbanisme, notamment les articles L422-1, L422-8 et R423-48, vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée portant droit et obligations des fonctionnaires. Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment les articles 61 à 63. Vu le décret 2008-580 du 18 juin 2008 relative au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux. Considérant la délibération du Conseil communautaire de la communauté de communes Aigle-Ouvèze en Provence en date du 24 septembre 2020, approuvant le projet de la convention de mise à disposition d'un agent commun pour le service commun des ADS. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver le renouvellement de la convention de mise à dispo d'un agent de la commune de Camaret-sur-Aigle auprès des services de la communauté de communes Aigle-Ouvèze en Provence, d'autoriser M. le maire à signer cette convention et tout document afférent à ce dossier. Donc il s'agit, comme vous le savez, c'est juste une formalité et une reconduction, et le personnel, c'est Madame Lydie Martin.
Y a-t-il des questions ? Alors, je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Dossier numéro 10, recensement de la population 2021, rapporteur Antonio Miga.
La réforme du recensement de la population introduite par la loi relative à la démocratie de proximité confie aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale, EPCI, la réalisation de recensements de la population. Le recensement de la population est organisé périodiquement tous les 5 ans. En 2021, il s'effectuera le 21 janvier 2021 au 20 février 2021. Les objectifs du recensement sont d'établir une population légale, de fournir des données socio-géographiques détaillées sur les individus et les logements, de constituer une base de sondage pour les enquêtes de l'INSEE réalisées ultérieurement auprès des ménages. La collecte des informations est organisée et contrôlée par l'INSEE. Les enquêtes de recensement sont préparées et réalisées par la commune qui reçoit, à ce titre, une dotation forfaitaire de l'État de 8 245 euros qui permet de financer la rémunération des agents recenseurs. En conséquence, et conformément aux recommandations de l'INSEE, il est nécessaire de désigner un coordonnateur ainsi que son adjoint et de recruter 8 agents recenseurs vacataires pour effectuer les opérations de recensement sur le terrain. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 3, vu la loi numéro 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son article 5, vu le décret numéro 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, vu le décret numéro 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour des besoins de recensement de la population, vu le décret numéro 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires, considérant que la commune de Camaret-sur-Aigle est inscrite sur la liste nominative des communes ayant à effectuer le recensement de la population en 2021, du 21 janvier 2021 au 20 février 2021, considérant qu'il est nécessaire de nommer un coordinateur de l'enquête de recensement ainsi qu'un adjoint, considérant qu'il est nécessaire de recourir à l'emploi de 8 agents recenseurs vacataires, considérant la dotation forfaitaire de recensement d'une somme de 8 245 euros à inscrire au budget 2021 en recettes de fonctionnement, considérant qu'il appartient à la commune de procéder au recrutement des agents recenseurs et du coordinateur et de fixer la rémunération afférente, il est demandé au conseil municipal d'autoriser le maire à engager la procédure de recensement pour 2020, d'autoriser le maire à nommer par arrêté le coordinateur d'enquête et son adjoint chargé de la préparation de la réalisation des enquêtes de recensement qui sont deux agents communaux. Le coordinateur agent de la commune bénéficiera d'heures supplémentaires IHTS ou complémentaires pour les agents à temps non complet. D'autoriser le maire à ouvrir et recruter 8 emplois d'agents recenseurs sous le statut de vacateur. La jurisprudence propose une appréciation de cette qualité en fonction de la coordination de plusieurs éléments, exécution d'un acte déterminé, absence de continuité dans le temps, rémunération de l'acte. D'accepter la dotation forfaitaire de l'État qui permet de financer la rémunération des agents recenseurs, de prévoir les dépenses afférentes en charges sociales et opter pour la base de l'assiette forfaitaire égale à 15% du plafond mensuel de la sécurité sociale, de prévoir un forfait pour le remboursement des frais de transport, d'inscrire les crédits nécessaires au budget de l'exercice 2021, d'habiliter le maire à effectuer toutes les démarches et à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la décision, d'indiquer que la présente délibération sera transmise à l'INSEE.
Y a-t-il des questions? Oui, monsieur Moncorsini, monsieur Normani.
Oui, monsieur le maire, quelques précisions. Peut-être avez-vous déjà choisi les personnes que vous allez désigner? Est-ce que vous accepteriez de nous en faire part ce soir? Et ensuite, comment allez-vous vous faire connaître au Camaretois la possibilité de participer à cette enquête? Et comment doivent-ils faire pour pouvoir y participer?
Je vais laisser le soin à M. Miga de préciser les modalités de publicité. En ce qui concerne le recrutement, il n'est pas terminé. Nous recevons encore des lettres de candidature. Mais Antonio, tu peux compléter, s'il te plaît.
Oui, donc concernant la publicité, nous utilisons tous les supports qui existent. Donc vous avez la page Facebook, la page de la ville et le compte Instagram de la ville. Donc les avis à candidature peuvent être adressés directement à l'attention de M. le maire ou directement par courriel, donc au service GRH. Il y aura un traitement immédiat de l'information.
Monsieur Moncorsini.
Oui, tout simplement. Donc, en dehors des critères de convivialité, excusez-moi, j'ai oublié, je pense que ces personnes sont recrutées sur des critères précis. Est-ce qu'on peut pas mettre en avant des personnes qui sont en recherche d'emploi ou des personnes qui ont besoin de travailler?
Oui, c'est cela.
C'est ça.
En fait, les personnes qui seront recrutées seront des personnes qui seront soit demandeurs d'emploi. Donc, Pôle emploi sera contacté, comme ça a été fait précédemment.
Monsieur Domini.
Oui, pour le coordinateur et son adjoint.
Donc des agents titulaires de la commune.
Vous n'avez pas encore défini qui c'est.
Le coordinateur, c'est un agent du service état civil, c'est Corinne Pagano, qui fait le recensement depuis, pas toujours, mais depuis de nombreuses années. Et l'adjoint sera choisi parmi les candidats qui se présenteront comme étant la personne la plus qualifiée. Et par ailleurs, pour répondre à la question de M. Moncorsini, oui, effectivement, n'hésitez pas à nous faire passer des candidatures. Sachant, je voulais apporter cette précision, que ces gens suivront une formation. Donc, il ne faut pas s'effrayer si les gens ne savent pas trop ce qu'ils doivent faire, ce qu'est le recensement, etc. Il y a une formation qui est prévue deuxième quinzaine de janvier, je crois, pour les gens qui postuleront.
Merci.
Ok, je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient d'opter l'unanimité. dossier numéro 11, mise en place du temps partiel et modalités d'exercice du travail à temps partiel, rapporteur Anthony Muga.
Les fonctionnaires titulaires et stagiaires ainsi que les agents contractuels de droit public peuvent, s'ils remplissent les conditions exigées, exercer leur service à temps partiel. Selon les cas, cette autorisation est soit accordée de plein droit, soit soumise à appréciation en fonction des nécessités de service. Le temps partiel sur